Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Merdi, j'ai 21 ans. Je suis l'un des membres du comité de responsables des jeunes à l'église, ici du groupe Oxygène, avec notre très cher responsable Israël. Ce matin, en tout cas, Dieu m'a mis à cœur un thème très particulier qui résonne dans mon cœur depuis un moment. Et par la grâce des dieux, enfin, on va en parler du coup. Donc, on est d'accord que, enfin, ici au Colombier, le thème annuel qui nous accompagne jusqu'à la fin de l'année, du coup, c'est rechercher les choses d'en haut. Amen. On est d'accord, hein? Ok. Je vais être sûre. De ce thème, moi, je tire un sous-thème que j'aborderai aujourd'hui, les choses d'en haut sur Terre. Parce qu'on est quand même sur Terre, hein. Et je me suis posé plein de questions à ce sujet, et l'Esprit des gens, en tout cas, m'a aidé à apporter quelques réponses que je partagerai bien évidemment avec vous. Alors, je vous invite à lire avec moi Matthieu, chapitre 7, le verset 7 à 8. Alors, la Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Alors en lisant ces versets, au fait, ces deux versets, j'ai observé qu'il y a trois verbes d'action. Donc demander, chercher et frapper. Mais en vrai, en retour, il n'y a que deux verbes de réaction. À celui qui demande, on donne. Donc ça implique qu'il y ait un autre être qui donne à celui qui demande. Et à celui qui frappe, on ouvre. Donc il y a une autre personne qui ouvre à celui qui frappe. Cependant, celui qui cherche trouve lui-même. Ça n'implique pas d'autres personnes à côté. Et je l'ai pris parce qu'il y a le verbe chercher. Et chercher, ça fait partie de notre thème et ça nous accompagne tout au long de cette année. Donc on comprend que chercher implique de trouver dans la mesure où ça n'implique pas d'autres personnes. Celui qui revêt le costume du chercheur découvre sa veste du trouveur. Amen. Christ le dit tout simplement, hein, celui qui cherche trouve. On a l'impression que les deux verbes sont vraiment simultanés. Alors dans cette même parole du Christ, il y a une vérité implicite que je découvre quand on cherche. Il dit, celui qui cherche trouve. Enfin, en sous-entendant qu'au fait, il y a une certaine disponibilité de l'objet de notre recherche. Parce qu'on ne peut pas trouver si la chose n'est pas disponible. Donc, quand Christ dit que celui qui cherche trouve, enfin, il veut dire en même temps qu'il y a une certaine accessibilité à l'objet de votre recherche. Il y a une certaine disponibilité de la chose que vous cherchez. Enfin, si je vais vite vous me signaler, hein, j'ai 30 minutes et j'ai 10 diapos que je dois vous présenter. Amen. Donc, comme je disais. Il y a une certaine disponibilité de la chose, de l'objet de notre recherche que Christ affirme déjà dans ce verset. Alors, je me suis quand même posé une grande question. On doit chercher les choses d'en haut, mais non, on n'est pas en haut, on est sur terre. Comment on fait? On est bien sur terre, vous êtes d'accord? Alors, on va faire une mise en situation. Un exemple concret. Moi, mardi, je suis invitée à une soirée un samedi. Je me réveille le samedi matin, je regarde ma garde-robe, mais je n'ai pas la robe qu'il faut. Je n'ai pas du tout la robe. Je n'ai pas le maquillage, je n'ai pas les chaussures qu'il faut. Et donc, mais la soirée a lieu le jour même. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je commence à chercher ma robe. Très rapidement, moi, je ne sors pas, hein, je commence d'abord sur les sites internet, comme tout le monde. Et on se met à chercher, je me mets à chercher ma robe et je réalise que l'heure passe, et l'heure passe très vite. Et la soirée approche. Puis tiens, je vois une bande d'annonce qui dit, ah ouais, on peut vous livrer en 2 heures. J'ai dit, merci Seigneur. Vite fait commander, livraison dans 2 heures, j'ai ma robe et je vais dans la soirée à fond. Mais une question que je me pose, l'Église n'est-elle pas invitée aussi à une soirée à laquelle elles doivent aussi se préparer? Pour laquelle elle doit également apprêter une robe et tout ce qui va avec la robe, bien sûr. Alors, si l'Église est invitée, elle aussi, à une soirée, la soirée du grand jour, celle du retour de Christ. Il y a quatre notions qu'il faut mettre en place pour faire une recherche efficace. Il faut savoir l'objet de la recherche, le lieu de la recherche, définir le cadre où nous cherchons, mais aussi le temps de recherche, parce qu'il ne faudra pas non plus chercher éternellement, hein. À un moment donné, il faut trouver. Puis enfin, il faut, tenir compte de l'objet, du lieu, du temps, mais aussi du canal de recherche. Parce que vous êtes d'accord, quand on vous livre votre objet en 2 heures, c'est mieux que quand même prendre le bus, sortir, aller dans le magasin. Ah, on est d'accord. Livraison est plus efficace. C'est pour dire qu'il faut chercher aussi le moyen efficace pour que notre recherche soit efficace. Alors voici ce que Colossiens nous propose dans cette recherche. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 4 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Le lieu, c'est où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Amen. Dans ce même texte, ah, je ne l'ai pas mis. Ah, c'est passé trop vite, désolée. Je vais déposer ça. Je recommence? Ok. Alors, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite des dieux, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Alors dans ce même verset, on a maintenant la réponse sur l'objet, le lieu, et aussi l'objet et le lieu uniquement. Parce que ça nous dit que nous devons rechercher les choses d'en haut, et c'est là que nous trouverons où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc on a maintenant la réponse sur le lieu de notre recherche en tant qu'Église. Pour préparer notre robe à la venue de Christ, nous recherchons les choses célestes, parce que c'est là que se trouve notre fin. Et c'est là même que se trouvent nos débuts à tous, dans le lieu céleste. Alors, ok, on sait qu'on doit apprêter nos robes, chercher les choses de l'esprit, où Christ est assis à la droite de Dieu, mais on fait comment? Parce qu'on est encore sur terre. Et il y a la notion du temps que j'ai évoquée tout à l'heure. Et j'avais une question à nous poser, nous, et tant qu'Église, je sous-entends qu'on le sait, à quel temps biblique vivons-nous aujourd'hui? Hein? La fin, oui? Les Écritures nous affirment que nous vivons au temps de la fin, que nous sommes déjà dans les derniers jours. Alors, nous comprenons que notre recherche s'effectue en haut. Et, enfin, nous cherchons les choses de l'Esprit où Christ est assis à la droite de Dieu, pendant que sur terre, nous vivons dans les temps de la fin. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit au fait au sujet de ces temps de la fin? Dans quelles conditions devrions-nous effectuer cette recherche des choses célestes pendant que nous sommes sur terre? De Timothée. Du coup, 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Il y a bien nous dit, c'est Paul qui parle à son fils spirituel Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ah, ça commence bien. Déjà que nous, on doit chercher des choses qu'on ne voit pas, et sur terre, les temps seront difficiles. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ouais, ça fait beaucoup, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Amen. C'est ce que vous lisez aussi? Ok. Alors, Paul qui décrit ces temps de la fin dans lesquels nous vivons aujourd'hui, en commençant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand on lit ça, on se dit, ah, enfin, moi j'imagine, peut-être pas vous, il y aura des temps difficiles parce que, je sais pas moi, la terre va plus produire, il y aura du soufre qui va nous tomber dessus, il y aura le feu, enfin, la pluie sera acide, ça va nous brûler, des choses comme ça, peut-être que la nature sera contre nous. Mais juste la phrase qui vient après, pour démontrer, parce qu'il y a un car qui implique une démonstration. Car les hommes seront, et la suite est longue. En fait, le temps devient difficile, non pas parce que la terre se rebelle contre nous, non pas parce que la nature devient méchante à notre égard, mais le temps devient difficile parce que le cœur de l'homme devient de plus en plus mauvais. En réalité, pendant que nous, on doit apprêter nos robes pour la soirée du grand jour, l'humain devient de plus en plus mauvais. Et c'est dans cette société que nous vivons aujourd'hui. Alors j'en déduis qu'un cœur mauvais engendre des temps difficiles. Vous serez d'accord avec moi, vous pouvez dire oui ou non, mais sans commenter, sans argumenter. Vous êtes d'accord si je vous disais qu'un patron méchant dans une entreprise engendre des temps difficiles aux employés? Un fils rebelle à ses parents engendre des temps difficiles pour ces derniers. Un père méchant dans la famille engendre des temps difficiles pour tout le foyer. Vous serez également d'accord qu'un conjoint ou une conjointe égoïste engendre des temps difficiles à son ou à sa partenaire. Des fidèles charnels aimant les plaisirs plus que Dieu engendrent des temps difficiles au sein de l'Église. Ah, j'ai pas entendu vos réponses. Combien de fois sommes-nous auteurs des temps difficiles les uns pour les autres? Généralement, quand on dit les temps difficiles, nous, chrétiens, on pense à la guerre, on pense à la famine, on pense à des choses qui sont loin de nous, que nous n'allons peut-être pas vivre de notre vie. Alors qu'au quotidien, nous engendrons des temps difficiles les uns pour les autres. Et c'est encore dur quand c'est à l'église. C'est encore dur quand c'est dans un endroit où nous sommes tous censés nettoyer notre robe, l'embellir, l'apprêter. Et c'est là qu'on rencontre encore des temps difficiles. Nous voyons des fidèles se rebeller contre les pasteurs. Nous voyons des gens s'élever, des frères et sœurs, se mettre des poisons. Dans la chorale, le jour où moi je chante bien, je suis contente. Si c'est Sharon qui chante, mon cœur s'enfle d'orgueil, j'ai de la jalousie à son égard. Ce n'était qu'un exemple, hein, je précise. Les temps sont difficiles aujourd'hui, non parce que la terre n'est plus viable, mais parce que le cœur de l'homme est de plus en plus mauvais. Les temps difficiles ne sont pas d'abord dans les choses qui se passent loin de nous, mais dans l'état des cœurs de celui qui est notre prochain. Et c'est dans ces conditions que nous devions, nous préparer au retour de Christ. Amen. Mais il y a également une autre chose que je lis dans la Bible au sujet des temps de la fin, au sujet des derniers jours. Les temps deviennent difficiles. Et avant même que Paul ne décrive cette réalité à son fils Timothée, Dieu va en parler, mais vraiment des siècles, bien avant. Dans Joël, Dieu va dire, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. » Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Ok, du coup, on se retrouve avec un moyen, un canal de recherche efficace, de préparation ardue. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Entre parenthèses, à tous ceux qui me posent la question, comment toi tu es femme et tu prêches, comment toi tu es femme, tu sers, écoute. Il s'en a dit sur toute terre, donc ne venez pas m'embêter. On a bien dit sur toute terre, sur vos filles et vos fils, les serviteurs et les servantes. Amen. Donc, Dieu dit qu'à ces temps-là, où il y aura des temps difficiles, où l'homme sera ennemi de son frère, où les choses normales paraîtront démodées pour la plupart, en ces temps-là, Dieu répand son esprit sur toute terre. Alors, même en temps difficile, du coup, dans lesquels nous vivons, nous demeurons fermes et forts dans notre quête des choses célestes au moyen de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu répand son esprit sur toute chair, sur les filles, les fils, les vieux, les jeunes, les serviteurs, les servantes. Alors, cette question nous concerne tous. Je pense qu'on est, on répond à toutes les catégories ici. Alors, on comprend qu'au fait, depuis la Genèse dans la Bible jusqu'à Malachie, on voit beaucoup plus Dieu agir, vous êtes d'accord? On voit Dieu agir, on voit des prophéties sur Christ, mais il n'y a pas encore concrètement l'action de Christ. Par moments, on parle que c'est lui l'ange de Dieu, mais on n'a pas encore vraiment vu le Messie en action. Donc, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est l'action de Dieu. On voit Dieu qui essaie d'être en interaction avec l'homme. Et à partir de Matthieu jusqu'à Jean, on voit Christ, Christ qui est dans toute sa vie, dans toute sa mission. Mais la Bible ne s'arrête pas à Jean, vous êtes d'accord? Juste après, dans les livres des Actes, tout débute avec le Saint-Esprit. Par là, nous devons comprendre que ce que Dieu a créé, Christ l'a sauvé, et ce que Christ a sauvé, le Saint-Esprit vient le sanctifier. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, nous ne vivons plus dans les temps, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous ne sommes plus au temps de Christ, Christ n'est plus sur terre. L'Évangile nous sert de parole, c'est le message de notre foi que nous gardons, qui nous enflamme de feu pour Dieu. Cependant, des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous vivons par l'Esprit de Dieu, parce que cette portion de la Bible est remplie des œuvres du Saint-Esprit. Pour dire que ce que Dieu a créé, de Genèse à Malachie, Christ l'a sauvé, de Matthieu à Jean, et le Saint-Esprit le sanctifie d'Actes d'apôtres jusqu'à Apocalypse. Amen. Et si nous vivons dans les temps de la fin, nous sommes alors appelés à être en communion parfaite avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est l'acteur dans notre époque. Amen. Si Dieu est votre Père, et Christ le Sauveur, qui est le Saint-Esprit pour vous? Juste pour dire que nous sommes souvent en relation avec Dieu, nous connaissons Dieu, nous disons que nous aimons Jésus, c'est lui qui nous a sauvés. Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux dire de lui? Tellement de choses, oui, quelles sont ces choses? Consolateur, messager, guide, oui, qui intercède pour nous. Intermédiaire. L'avocat auprès du Père, c'est pas Christ, ça. Au fait, pour dire, par cette question, pardon? Oui? Oui, le Saint-Esprit est sur terre pour nous. Au fait, par cette question, j'aimerais alarmer un cœur pour dire que nous devons avoir une relation très personnelle avec le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à avoir une relation de cœur à cœur avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre le temps de la fin sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas préparer notre robe pour la soirée sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être enflammés et enflammer les autres sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit chrétien et charnel. C'est pour ça que dans nos églises, il y a tant de divisions, tant de zizanies, tant de problèmes. Parce que nous voulons faire par nous-mêmes. C'est comme si les gens sont dans le temps de la grâce, mais avec une mentalité du temps de la loi, au fait. Ouais, à l'église, il faut s'habiller comme ça. À l'église, il faut pas si, pas ça. Calm down, au fait. On se calme et on se concentre sur l'essentiel. Parce que l'essentiel n'est plus dans l'habillement, l'essentiel n'est plus dans qui fait quoi, qui dit quoi. En fait, l'essentiel, maintenant, c'est préparer nos cœurs au retour du Christ. Et le temps est tellement pressant. Christ lui-même va dire qu'il ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais la même Bible va dire que le Saint-Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Pour dire que le Saint-Esprit détient l'information sur le timing du retour de Christ. Et c'est l'être avec lequel vous ne voulez pas avoir communion. Comment faites-vous vous préparer? C'est qu'en ce temps de la fin, nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit. C'est lui l'action des dieux, c'est lui la puissance des dieux. Une fois que Christ quitte la terre, qu'est-ce que les apôtres vont vivre? Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Nous voyons dans les églises des chrétiens baptisés d'eau du coup, depuis des années, mais qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Et ça ne leur dit absolument rien. On a besoin du charisme spirituel, les amis. Vous allez exercer ça où? C'est maintenant qu'il faut prophétiser. C'est maintenant qu'il faut faire le miracle. C'est maintenant qu'il faut être à fond avec Dieu. Comment on veut être intime avec Dieu sans être intime avec l'être qui sonde les profondeurs des yeux, franchement. C'est comme si on te disait que, OK, Google est là, tu veux faire une recherche. Toi, tu te dis, non, je vais à la bibliothèque pour lire les livres. OK, Socrate. Bonne lecture. Sauf qu'il y a un moyen plus rapide aujourd'hui de connaître les profondeurs des yeux. Et même de nous préparer, nous, à recevoir Christ. Quand je lis l'histoire sur les 10 vierges, par moments, je suis choquée. Hein. Ce sont des personnes qui se préparent au retour de Christ, mais qui ne sont pas entrées. Il n'y a qu'une portion. Pour dire que peut-être qu'on est nombreux ici, tout le monde ne va pas entrer. Je vous avertis. Pour dire que c'est vraiment question de cœur à cœur. Il ne faut pas que, être vêtu, il faut avoir aussi sa lampe. Pour dire, il ne faut pas recevoir le package de Dieu à moitié. Il ne faut pas que se contenter à l'œuvre de la croix. Tous les soirs, toi, tu te sanctifies par le sang de Jésus. Mais quand est-ce que tu vas commencer à t'enflammer par le feu de l'Esprit? On est tous d'accord qu'on est pécheurs. Donc, tous les soirs, avant de dormir, on se repent, on se sanctifie, on prie que le sang de Jésus. Mais l'œuvre de Jésus ne s'est pas arrêtée là. Sa glorification auprès du Père nous a donné accès au Saint-Esprit. Parce que les œuvres que nous n'avons pas pu accomplir par nous-mêmes au temps de la loi, nous arrivons à les accomplir, enfin, Christ l'a accompli pour nous et nous arrivons à vivre dedans au moyen du Saint-Esprit. Alors, si nous sommes là, recherchons le Saint-Esprit. Amen. Mais Christ, parlant toujours de ce temps de la fin, ne se limite pas là. Il nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents, comme les serpents et simples comme les colombes. » Amen. Mais j'ai dit, « Seigneur, même temps on cherche les choses de l'esprit, même temps les temps sont difficiles, même temps le Saint-Esprit, les gens ne voient pas trop qui c'est, mais en même temps on est de brebis au milieu de loups, mais Seigneur, l'équation est compliquée, hein. » Mais il nous dit ceci, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Christ lui-même sait, il a conscience que les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont durs. Et il nous représente lui-même, il nous illustre comme si nous étions des brebis au milieu de loups, comme si nous étions une proie et que les autres pouvaient nous dévorer. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est la parole. Comme si nous étions une proie facile à dévorer. Mais en même temps, il nous dit, soyez prudents comme le serpent. Je me pose la question, mais comment une brebis peut être prudente comme le serpent? Dans la nature. Voilà la brebis. Comment vous voulez qu'elle soit prudente? Au fait, la brebis peut devenir prudente tout simplement au moyen du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit concrètement? C'est quoi la prudence? Vous êtes d'accord avec moi que la prudence, c'est cette capacité de se préserver ou de prévenir un mal potentiel? Alors, comment être prudent? Comment être concrètement prudent? D'après ce que les Écritures nous disent, c'est de revêtir l'armure de Dieu. C'est comme ça qu'on devient prudent. En nous revêtant de l'armure de Dieu. La brebis devient prudente comme le serpent lorsqu'elle a la capacité de se revêtir de l'armure céleste. Que nous dit Éphésiens du coup, chapitre 6, le verset 10 à 17 ? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6. Je reprends la lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça devient intéressant à partir du verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Il dit aussi, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, on devient prudent ces temps de la fin lorsqu'on a la possibilité, nous, de nous revêtir de l'armure de Dieu, en prenant toutes les armes. Et moi, la partie qui m'intéresse, c'est l'arme en particulier qu'on dédie au Saint-Esprit, qu'on dit que ça appartient à l'Esprit. Au verset 17, il dit « Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » D'après le regard du monde à notre égard, c'est celui des personnes fragiles, des personnes qui croient en quelqu'un qui n'est pas là. C'est, ça paraît miteux, ça paraît très faux, ça paraît... voilà quoi. Mais au fait, en même temps, lorsqu'on se revêt de l'armure de Dieu, au fait, c'est comme ça que nous arrivons à éteindre et à résister en ces temps de la fin. Et la vraie lutte, ce n'est pas d'abord dans les guerres, la vraie lutte, ce n'est pas d'abord dans les choses qui se passent ici. La vraie lutte est spirituelle, les versets d'avant nous le disent très bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Une guerre qu'on a déjà gagnée spirituellement, physiquement, on la gagnera forcément. Et pour lutter dans ce monde spirituel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et les armes qui sont dédiées au Saint-Esprit, il y a le casque du salut, on dit, et l'épée de l'Esprit. Juste avant, on dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par moments, l'ennemi n'a même pas besoin de vous approcher. Hein. Il vous attaque de loin. Dans d'autres versions, on dit, ce sont des flèches qui vous envoient. Par moments, l'ennemi vous envoie des flèches au loin. Ce sont de mauvaises paroles, l'attitude des gens, des choses qui vous choquent, et etc., etc. Mais pendant que vous vivez tout ça, vous êtes en mode louange, vous êtes en mode working love, vous êtes en mode worship. Du coup, vous ne sentez même pas que l'ennemi vous envoie des flèches. Et quand vous résistez au loin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche. Parce que vous avez votre bouclier, vous voyez un peu l'armure. J'aimerais bien illustrer ça, mais je n'ai pas le matériel. Mais bon. On va faire jouer notre imagination. Donc ça, c'est mon armure. Moi, je suis là, et il y a les diables qui jettent des trucs, mais mon armure me protège. C'est le bouclier de la foi. Et je suis derrière. Mais quand l'ennemi voit que je résiste, il va s'approcher. Il va s'approcher. Et quand il s'approche, ce n'est plus question que moi, je dois rester derrière le bouclier. Hein. Vous savez tous que quand on va à la guerre, l'épée, on ne la perd pas, on la garde près de nous. On ne la lance pas, on joue avec à côté. Donc quand l'ennemi s'approche, pendant que moi je suis en mode working love et tout ça, au loin, ça me protège. Mais quand il s'approche, il est devant moi, je sors mon épée au fait. Et l'épée qu'il faut sortir, c'est la parole de Dieu. Et la chose que les chrétiens oublient de faire dans les 24 heures que Dieu nous donne par jour, c'est lire la Bible. Comme par magie, hein, passe 24 heures. On n'a pas une minute pour lire un seul verset. Alors que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et même Christ, après 40 jours de jeûne et prière, le diable a cru qu'il était affaibli parce qu'il était affaibli dans sa chair, mais pas dans son esprit. Le diable vient le tenter premièrement en lui demandant de transformer les pierres en pain. Il dit, il répond toujours par « il est écrit ». À chaque fois que les diables pouvaient, les pharisiens faisaient des complots de loin, Christ n'avait pas besoin de dire quelque chose. Lui, il continuait dans sa mission. Mais une fois que le diable s'approche de lui concrètement comme ça, dans ces cas-là, moi, je ne reste plus dans ma mission, je sors mon épée, qui est la parole de Dieu. Et là, il dit, il est écrit. Vous verrez que en lisant cette portion des Écritures dans Luc, le diable commence, si tu es fils de Dieu, transforme. Christ va lui répondre par « il est écrit ». La suite, vous lirez. Puis il revient encore. « Il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges. Pour dire en fait, même le diable a augmenté le niveau. Il est revenu dans la parole de Dieu pour trouver des astuces pour le casser au fait. Alors nous avons besoin de la parole de Dieu pour tenir en ces temps de la fin. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous maintenir debout. Mon bouclier me protège au loin, mais si l'ennemi frappe à ma porte, je sors mon épée. Quand les situations deviennent compliquées, et je prends la parole de Dieu, je la proclame, je la déclare, je la marque sur mes murs, je le mets dérapé sur mon téléphone, je laisse cette parole m'envahir au fait. C'est comme ça qu'on arrive à résister lorsque l'ennemi est à notre porte. Combien de fois ne nous sommes pas sentis oppressés, coincés, broyés, parce que simplement on sentait qu'il y avait une mauvaise présence peut-être dans notre chambre. Je sentais seulement qu'il y a quelque chose qui ne va pas ces derniers temps. Mais qu'est-ce que nous, on a fait quand tout ça ne va pas? On se dit, ouais, on va pratiquer, je ne sais pas moi, quelle séance. Allons faire du sport, allons sortir un peu, ça va t'échanger les idées. Les amis, la foi, le bouclier de la foi nous sert pour les attaques lointaines. Mais si le diable s'approche, il faut sortir le « il est écrit ». Il faut sortir la parole de Dieu. Et que nous dit la Bible au sujet de cette parole? Parce que Christ dira que la parole qu'il nous annonce est elle-même esprit et vie. Pour dire en fait que dans la parole se trouve l'esprit de Dieu. Donc qui cherche Dieu au travers de sa parole trouve l'esprit de Dieu. Et dans Actes 8, 1, 8, il nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pour dire qu'en fait, il n'y a pas de puissance sans Saint-Esprit. Et il dit ensuite, « Vous serez mes témoins. » Mais je me dis, « Mais Seigneur, pourquoi Christ dit qu'ils seront ses témoins ? Ils étaient déjà témoins, non ? Témoin, c'est qui ? Enfin, c'est celui qui a vu. Mais ce n'est pas ça du point de vue de Dieu. Témoin, c'est celui qui a reçu le témoignage. Parce qu'eux, ils ont vécu avec Christ, mais ils n'ont pas encore été témoins. Christ a dit que vous serez témoins après avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Que nous dit la Bible dans Jean 14, 26 ? Mais les consolateurs, le Saint-Esprit que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit en nous? Nous enseigner la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit qui nous permet de lutter en ce temps de la fin. Amen. Et il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour dire qu'en fait, qu'en ce temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas que dans les évangiles, parce que ça, c'est le message de la foi. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que les actes des apôtres n'est pas encore clôturé. Il y a des apôtres mieux de nous. Amen. Donc, ils accomplissent encore des actes. Donc, les actes des apôtres n'est pas encore clôturé. Mais comment on veut encore poursuivre dans cet élan sans le Saint-Esprit? Nos réunions sont froides, comme si nous étions là pour... Oh my God! Parce qu'il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu de l'esprit. Nous sentons beaucoup de merveilles de Dieu, mais combien nous les vivons. Et ce qui est encore drôle, c'est qu'il y a une personne, il y a peut-être mon voisin, qui vit le Saint-Esprit pendant le culte, mais moi je suis là en observateur. L'ami parle en langue, il monte dans les dimensions, il s'édifie lui-même. Mais moi je dis, il raconte quoi là? Lis 1 Corinthiens 14, au fait, c'est dans la parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. On va finir avec ce verset, puis on va prendre quelques minutes de prière, en prière. Luc 11, 13, il dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Ouais, je vais être enflammé, je vais être... Demande au fait. Demandons le Saint-Esprit. Soupirant après cet être. Le Saint-Esprit n'est pas d'abord un moyen, ce n'est pas d'abord la chaleur qui nous envahit quand on prie. ce sont des signes parfois de sa manifestation. Mais ce n'est pas ça, il n'est pas que cette chaleur-là. Alors en ce temps de la fin, le meilleur cadeau que Dieu nous donne, le meilleur des meilleurs, il dit, si les pères mauvais savent donner de bonnes choses à leurs enfants, alors le meilleur que moi, Dieu, Père responsable, Père céleste, que je peux donner aux hommes, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en vrai, c'est Dieu dans l'homme. Et c'est Dieu dans l'homme qui lui accorde la capacité d'accomplir les œuvres divines. Alors je veux nous tous nous inviter à mettre ça en action. Si vous pouvez bien vous lever, on va juste prendre deux, trois petites minutes en prière. On va demander à Dieu une seule chose, d'un même cœur. Pas d'abord la réponse à je ne sais quelle prière, pas d'abord la réponse à un problème, pas d'abord la réponse à... parce que les problèmes, on en aura toujours, jusqu'à ce que Christ arrive. Mais j'aimerais que pendant ces instants, tous ensemble, que nous levons nos voix comme un seul homme et que nous demandons simplement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans nos vies personnelles, le Saint-Esprit dans notre travail, le Saint-Esprit dans notre ministère, le Saint-Esprit pendant nos temps de service à l'Église, le Saint-Esprit dans nos temps intimes en prière, le Saint-Esprit dans nos familles. Oh oui, si on peut élever notre voix, j'aimerais vraiment que nous puissions prier vraiment de tout notre cœur, mais d'un même cœur, comme une Église, le Saint-Esprit au sein de notre Église. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Tu as dit que toi, tu accordes à ceux qui te le demandent. Alors aujourd'hui, nous te demandons ton Saint-Esprit. Tu sais que nous devons chercher ces choses, mais sans ton Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans ton Saint-Esprit, on ne peut pas laver nos robes. Sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous apprêter pour ce temps de la fin. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'être des personnes vivant, parlant de toi, sans manifester exactement les œuvres de ta personne. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. En ce temps de la fin, en ce temps dur, nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit, nos cœurs soupirent après toi. Nos cœurs soupirent après qui tu es. Viens, révèle-nous le Père. Viens, révèle-nous le cœur de Dieu. Viens, révèle-nous encore qui est le Père. Viens, revêt-nous de cet amour pour les Écritures. Tu veux que nous annoncions la bonne nouvelle. Oh, comment serons-nous impactants sans toi? C'est toi l'action de Dieu. Je ne veux plus prier sans toi. Nous ne voulons plus prier sans toi. Nous ne voulons pas chanter sans toi. Nous ne voulons pas prophétiser sans toi. Alléluia. Alléluia. Oh, si un cœur peut encore monter et faire cette prière. Ah, il n'y a pas de salut sans Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ah, viens remplir. Viens. Montre-nous ta gloire. Oh oui, viens-nous ta. Nous t'invoquons, viens, montre-nous ta gloire, chemin, nous t'attendons.